sur RVE. RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité cette semaine qui a été dominée par l'affaire Daval. Au départ, c'était l'affaire Alexia Daval. C'est devenu l'affaire Jonathan Daval qui passionne la France avec ses coups de théâtre et ses chapitres successifs. Finalement, c'est donc lui le tueur, mais en fait, il était violenté par sa femme, ce qui n'excuse rien, mais explique, c'est d'ailleurs tout un débat. Nul doute que le procès qui suivra sera très suivi, justement sur cette ligne de défense qui se profile déjà, celle de l'homme battu. D'autres ont défilé dans les rues pour tout autant quand il s'agissait de femmes battues. Affaire à suivre donc. Des affaires, il y en a eu encore cette semaine. Celle de Mathieu Gallet, viré de Radio France, le président de Radio France, renvoyé par le CSA après sa condamnation pour favoritisme alors qu'il dirigeait l'INA. Et la présomption d'innocence, alors, c'est la question que légitimement on peut se poser, puisque Mathieu Gallet, certes, a été condamné en première instance, mais il a fait appel. Il n'empêche, le CSA l'a mise à la porte. Autre affaire, prison avec sursis pour le plus court ministre de la République, l'éphémère secrétaire d'État au commerce extérieur de François Hollande, Thomas Thévenoud. Il a pris donc 12 mois de prison avec sursis, car il n'avait pas déclaré ses revenus à cause d'une phobie administrative, avait-il déclaré à l'époque. Ce qui avait consterné les uns fait rire les autres. La condamnation est donc tombée cette semaine. Autre affaire, celle de Gérald Darmanin, qui fait l'objet d'une accusation de viol qu'il conteste formellement. Il n'est pas mis en examen, une enquête préliminaire seulement est ouverte. Mais là encore, on ne fait guère de place à la présomption d'innocence. En tout cas, dans le jeu politique, la droite réclame sa démission, trop heureuse d'enfoncer un coin et de faire payer, puisque c'est comme ça qu'il est considéré, puisque Gérald Darmanin vient du parti Les Républicains. Cette semaine, il y a aussi eu une actualité automobile avec le marché automobile français qui a progressé de 2,5% en janvier. Et ce sont les constructeurs français qui, dans leur ensemble, ont fait beaucoup mieux que les concurrents étrangers, plus 11,7% de voitures immatriculées. Les Français qui se mettent au pick-up, engouement inédit en France. Jamais il ne s'est vendu autant de pick-up. La barre symbolique des 20 000 modèles a été passée. Alors c'est une progression de plus de 50%, dit comme ça, c'est spectaculaire, plus 50% en 2 ans. Mais ça ne représente tout de même que 0,8% du marché. Les enseignes préférées des Français ont aussi été dévoilées cette semaine. Le géant américain Amazon est détrôné par Decathlon, couronné pour la 2e fois selon cette étude annuelle. On retrouve en 2e place Cultura, l'enseigne culturelle des centres Leclerc. 3e Picard, 4e la Fnac et Amazon seulement 5e. Cette semaine, à propos de consommation, après les émeutes du Nutella la semaine dernière, on a eu les émeutes des couches, encore chez Intermarché, qui encore faisait moins 70% cette fois sur les couches Pampers. Et comme pour le Nutella, on s'est battu pour avoir les paquets. Enfin, cette semaine, on apprenait que TF1 a choisi les 28 matchs que la chaîne diffusera pour la Coupe du Monde, en clair, donc visible par tous, puisque les autres seront sur chaîne payante. Au total, il y aura 16 matchs du premier tour, dont ceux de l'équipe de France, 5 rencontres des 8e de finale, 3 quarts de finale avant l'intégralité des demi-finales, petite et grande finale. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Avant d'en trouver le sport, le temps de ce dimanche, quelques flocons, des éclaircies dans l'après-midi et puis des températures qui resteront basses. 1 à 0 degrés ce matin au réveil et dans la journée, nous n'aurons pas plus de 3 degrés. Le temps demain lundi, il devrait y avoir un peu plus d'éclaircies mais aussi quelques flocons de neige.
RVE. Écoutez, 103.7 RVE. Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le premier Tribune Foot de l'année 2018, puisque celui du mois de janvier s'était naturellement effacé derrière la grosse rétro. Certains étaient déjà avec nous à l'occasion de cette rétro, dont nous aurons rejoint pour ce Tribune Foot, donc on va les saluer puis leur souhaiter, avec un peu de retard, une bonne et heureuse année 2018. Allez, on va commencer avec celui qui depuis une semaine n'arrête pas d'être aux côtés de la reine du Muguet. Il est content, l'a reçu la semaine dernière pour l'association franco-portugaise, c'est notre ami José Vega. Salut José, ça va ?
Bonjour Philippe.
Bon, il y a la reine du Muguet, mais il y a des matchs à suivre aussi.
Oui, il y a des matchs à suivre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, on est content, la reine du Muguet a été élue, ok, mais on est encore plus content quand Paris gagne. Et je vais faire plaisir à Juliette, on a gagné hier soir 3-0 contre Lille, donc on a 11 points d'avance, c'est bien.
Naturellement, on ne s'était pas vu depuis deux mois, donc on va commenter toute la foot de ces deux mois, hein, le championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, on reviendra sur ce qui nous attend en Coupe d'Europe, et puis la création de la Ligue des Nations. Ils développent le foot en Essonne de façon remarquable. C'est donc Benjamin que je salue. Salut Benjamin, ça va ?
Bonjour tout le monde.
Pleine forme ?
Pleine forme, l'OM est deuxième du championnat avec 51 points, donc tout va bien.
On en reparlera, tiens, un autre Marseillais qu'on salue, c'est notre ami Pierre. Salut Pierre.
Salut Philippe, bonjour
ça
à tous.
Ça restera l'homme de la remontada, c'est point final.
Oui, et ça, faut jamais l'oublier.
Voilà, très bien. Il a fait ses premiers plateaux là sur Eurosport, j'espère que vous l'avez vu, c'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va bien ?
Ça va très bien, et vous Philippe ?
Très bien, pleine forme ?
Pleine forme.
Ouais, c'est bien le plateau d'Eurosport et bien le film sur Pierre Fontaine.
Écoutez, hein. Merci beaucoup.
Voilà, très bien. Allez, Edouard, avec nous. Salut Edouard.
Oui, salut.
L'homme qui avait vu les Portugais être champion d'Europe de foot.
Bonjour à toutes et à tous. Oui.
Ouais. Très bien. Notre ami Francis qui était avec nous la semaine dernière, on n'a pas gagné beaucoup d'argent à travers le prix d'Amérique. Hein. Body Gold deuxième. Francis, ça va bien ?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, ça va bien. Oui, bien sûr. Et comme on n'a pas gagné beaucoup d'argent.
Enfin, bon, Body Gold deuxième.
Oui, deuxième. Il s'en est fallu de peu, mais bon, on a touché le quartet tout de même.
Et puis, plus que jamais.
Et puis, un peu un ch'ti, un peu chagrin aujourd'hui, parce que l'OSC 18e, en Ligue 2, Valenciennes et Lens 15-16e, tout va mal dans le Nord.
On en parlera. Elle symbolise le PSG. Faut pas y toucher au Paris Saint-Germain. C'est Juliette Rouvel. Ça va, Juliette ?
Oui, ça va. Bonjour à tous. Bonjour, Philippe. Écoutez, on verra. Comme toujours, Paris poursuit son chemin. Et puis. Les autres sont derrière, ils nous suivent.
Bon, 14 février, c'est
et
pas
nous tirent dessus quand ils peuvent.
Allez, 14 février, c'est pas que la Saint-Valentin, hein. Il y a un rendez-vous important,
oui,
on en reparlera.
Hein. Je dirais, si monsieur Collina, je crois que c'est lui le responsable des arbitres
de l'UEFA. Ça rappelle pas de souvenirs aux Marseillais, hein, monsieur Collina.
J'espère qu'il ne nous mettra pas un arbitre...
allemand.
Non pas allemand, mais véreux.
L'émission commence bien,
mafieux, et aussi un Judas, parce qu'il nous a crucifié... devant Barcelone. Alors moi, je dis, cette fois, il devra faire le nécessaire.
C'était il y a un an. On est content de le retrouver. Il revient à ce micro quand les verres vont mieux.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui,
ça va Bibi ?
Oui, ça va très bien, merci. Juliette dit les autres sont derrière, mais rassure-toi, on revient, Juliette.
Oui,
prépare-toi à avoir des sueurs froides.
Très bien, allez, on va commenter l'actu du foot. Donc on s'était quitté au tout début du mois de décembre. Hein, on avait donc exceptionnellement enregistré cette émission. Paris subissait quelques heures après sa première défaite. Il y a deux défaites depuis, Paris qui survole le championnat, 11 points d'avance, après notamment, José en parlait, la victoire de hier contre Lille, 3-0. Bon, José,
oui, ça
deux défaites, une défaite à Lyon aussi.
Oui, et puis à Strasbourg, je m'en rappelle. Il suit son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'au niveau du championnat, bon, je ne vais pas dire que c'est joué d'avance, mais il y a quand même 11 points. Ça serait étonnant que Lyon ou Marseille ou même Monaco reviennent sur Paris. Hein. C'est pratiquement impossible. La deuxième place, pour l'instant, elle est tenue par Marseille.
Ça, c'est intéressant. Ça va être passionnant.
Et ce soir, on va voir vraiment Monaco-Lyon. La deuxième place. Ouais. Monaco-Lyon, celui qui gagne, il reviendra sur Marseille.
Alors, messieurs, tiens, justement, du côté de l'OM, Pierre, Marseille va mieux. Il y a une bonne série, ils finissent enfin par marquer des buts, ce qui n'était pas toujours le cas en première moitié de saison. Donc on peut espérer aller chercher une place en Ligue des Champions.
Maintenant là, je pense qu'on va commencer à afficher nos ambitions. Certains se révèlent comme Thauvin, vous avez pu le voir vendredi soir.
C'est vrai qu'il fait une de ses meilleures saisons.
Voilà, je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout.
Rappelez-vous, je vous ai toujours dit qu'avec Rudy Garcia, hein, je l'ai jamais caché, vous pouvez regarder le podcast, j'ai toujours dit que Marseille reviendrait et que Rudy Garcia, c'était un entraîneur, un très bon entraîneur et qu'il allait remettre Marseille à flot.
Oui, je l'ai toujours dit. Hein. Il a su créer un groupe, ça se voit que le groupe vit bien et c'est important dans un vestiaire, on le sait. Et j'espère qu'on ira chercher cette deuxième place parce que c'est important... financièrement parlant aussi, puis pour la continuité du projet.
Mais juste avant de... Il n'y a pas que Thauvin qui tient votre équipe.
Non, il y a aussi Rami, il y a aussi Mandanda et Luis Gustavo surtout.
Je pense surtout à Luis Gustavo qui tient le milieu de terrain de main de maître. Et si ça joue aussi bien à Marseille, je pense que c'est principalement grâce à Luis Gustavo.
Ouais, je suis d'accord avec Arnaud. Luis Gustavo, c'est vraiment la vraie bonne pièce du mercato, contrairement à certains qui sont déjà partis. Mais comme on a vu après la victoire contre Metz, il gagne 6-3 et il n'y avait pas de satisfaction après le match parce que prendre 3 buts comme ça, c'est juste. Ça révèle en fait les lacunes du secteur défensif et c'est là où Marseille devra appuyer au prochain mercato.
Oui, alors justement, on marque beaucoup de buts dans ce championnat. On a un nombre plus important de spectateurs, ça reste un bon championnat parce qu'on marque des buts, mais ça ne veut pas dire forcément que les matchs sont bons.
Ça reste un bon championnat, mais le problème c'est qu'on voit quand même qu'aujourd'hui on n'a qu'un qualifié en 8e des finales de Ligue des Champions, et là ça révèle notre niveau. On va avoir un début de réponse en Europa League, et je pense qu'on a quand même à progresser, et notre niveau, en fait 5e championnat, c'est réellement notre niveau. On est quand même loin de l'Espagne et de l'Angleterre en termes de niveau de jeu moyen.
Bref, faut avouer que les clubs français ont jamais joué l'Europa League. On a un Stéphanois là-bas, Saint-Etienne a très longtemps été en Europa League. À aucun moment ils se sont dit on va jouer la Coupe d'Europe. Il y a que Lyon qui se dit on va essayer de la jouer, on va essayer d'aller loin. On a une finale qui est à Lyon au mois de mai cette année. Lyon a un clair objectif, c'est d'aller en finale d'Europa League. Saint-Etienne, Nice, ces équipes-là ont toujours abandonné l'Europa League pour se concentrer sur le championnat.
Ouais, enfin la dernière année, il y a 2 ans, quand on s'est fait éliminer par Manchester. Si, les Stéphanois jouaient l'Europa League à fond. Hein. C'est une culture chez nous. Hein. Donc, voilà. Après, avec les moyens, c'est toujours pareil. Hein. Quand Saint-Etienne tombe contre Manchester, c'est sûr qu'on ne joue pas dans la même cour. Mm-hmm. Mais si, je pense que nous, personnellement, on la joue à fond.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clubs français en Europa League jouent le jeudi soir, ce qui leur fait jouer en championnat le dimanche. Et en termes de priorité, ils mettent clairement le championnat devant la Coupe d'Europe. Et voilà, donc
c'est vrai que ce n'est pas une priorité quand même pour l'ensemble des clubs. Ça, c'est quand même assez sidérant, assez dommage. Mais enfin bon, c'est comme ça, ce n'est pas une priorité.
Je ne comprends pas. Les clubs français qui jouent le jeudi, ça gêne les uns, ça gêne les autres. Et en Italie, ils jouent tous les 3 jours. Et il n'y a pas de problème.
C'est qu'en France, le problème.
Et alors, c'est tous les 3 jours aussi, pareil. Ils jouent le jeudi, ils jouent tous les trois jours. Bah oui. Hein, maintenant, si Monsieur Aulas avait fait le nécessaire pour nous donner un peu plus de clubs au niveau de la Champions League, on serait
ça,
pas
ça
seul.
Ça n'a rien à voir, parce qu'il n'a pas fait, mais il a pas décidé.
Mais il était lors de la réunion où ça se décidait, et il aurait pu taper du poing sur la table pour permettre à la France d'avoir plus de deux équipes en équipe de France, maintenant il faut revoir les choses et demander à ce que tous les clubs, l'Italie, la France et tout ça puissent avoir le même nombre de clubs.
Mais en fait le problème c'est que c'est une histoire de coefficient.
Et dans ces cas-là, tu mets 7 clubs romands en Ligue des Champions.
Pas tous, puisqu'ils sont pas du même niveau.
Non, mais on peut mettre la France dans le
quota des quatre. Pourquoi les quatre sont toujours ensemble et plus personne ne peut rentrer parmi ces pays?
Pourquoi aujourd'hui il y a 4 clubs espagnols qui sont en quart de finale, ou des fois il y a 3 clubs anglais?
Justement, ils arriveront toujours en finale, et la France ne sera jamais en finale.
C'est de par les résultats qu'il y a un coefficient. Oui. Et là, il y a un changement. Le troisième du championnat français va éviter de passer par le tour préliminaire en fonction du vainqueur de la Ligue des Champions.
C'est pas sûr.
Alors, Bibi, justement, les Verts, ils vont un peu mieux. Il y a eu un changement d'entraîneur, hein, comme à Bordeaux, comme à Toulouse, hein, comme à Lille. Les Verts vont un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé, Romeyer et puis
Cagnazzo, le duo est de trop. Oui, on a tout fait à l'envers. Alors déjà, normalement, le président Romeyer, ça va à la fin de l'année.
Il semble assez fatigué quand même.
Ouais,
il a plus la même pêche.
Et puis à un moment, faut évoluer. On s'est assis pendant des années. Bon, on avait quand même un entraîneur qui tenait la baraque, tout. Qui avait une équipe de second couteau. Saint-Etienne, c'est le 5e budget de France. Bon, on n'a jamais été capable, ou 6e peut-être, juste derrière Marseille et tout, on n'a jamais été capable de lâcher un peu d'argent pour recruter des joueurs comme on a fait au Mercato. Hein. Bon, on est arrivé en fin de cycle, après on a rembauché un nouvel entraîneur, ça n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi. Tout de suite, on a nommé un môme du cru qui est adorable, Julien, mais qui n'avait pas forcément les compétences, et on fait tout très vite, quoi. Saint-Etienne, voilà, on est arrivé en bout de cycle, il va être temps de refaire quelque chose, et puis il va falloir, on parle de repreneur à l'heure actuelle, on ne sait pas à droite ou à gauche.
Est-ce que c'est dans la culture stéphanoise, est-ce qu'on verrait des Chinois par exemple arriver
Maintenant il faut, c'est le seul club français où il n'y a pas de capitaux étrangers, Saint-Etienne.
Oui, justement.
Donc il faut, on a refusé il y a deux ans les Qataris et après les Chinois. Mais non, si on veut évoluer, si on veut gagner un titre tous les 50 ans, non, faut évoluer, faut faire rentrer de l'argent et faut rehausser maintenant un peu, faut rehausser un peu nos ambitions.
Je pense qu'en fait on a vu les limites du professionnalisme. Que ce soit à Saint-Etienne ou à Bordeaux, en fait.
Ouais, voilà.
On a vu que ces clubs, en fait, ils ont eu du mal à se structurer. Ils sont restés un peu dans le passé. Et au bout d'un moment, ils l'ont payé.
Enfin, ça a bien marché quand même. Saint-Etienne, 5e, 6e régulièrement pendant plusieurs saisons.
Oui, parce que Galtier tenait la baraque.
Voilà,
on voyait qu'ils étaient à un seuil, ils ne pouvaient pas aller plus haut.
Galtier avait tenu la baraque. Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, nous, on cherchait à être européens. Saint-Étienne.
Pour pas la jouer au final, voilà. C'est une question de finale.
Si, il a joué, mais on sait très bien qu'à un moment, une fois que t'es européen, on sait très bien qu'on ira. Voilà, tout à fait. On sait très bien qu'on ira pas au bout.
Une fois que t'accroches la Ligue Europa, tu reçois une certaine somme en fin de saison. Voilà. Ça te met en Coupe d'Europe, mais au final, tu l'as joué.
Mais parce qu'on sait qu'il y a un manque de professionnels. Voilà. Ils ont mal recruté. Ils sont trompés sur le recrutement, certains.
Mais voilà, mais c'est
le problème des Stéphanois. Quand ils sont à l'extérieur, ça joue pas de la même façon quand ils sont chez eux. Parce que là, ils vont gagner à l'extérieur. Ils ont fait plusieurs fois. Mais quand ils sont chez eux...
Il y avait plus la motivation. Quand tu penses qu'on se prend 5-0 au derby, ouais. Il y a encore quelques années, on pouvait perdre contre tout le monde. Parce mais il y avait cette culture. C'était les guerriers qui arrivaient au derby. Moi, j'ai vu des derbies. On ne peut pas perdre. À partir du moment où tu prends 5-0 au derby, c'est que le club est quand même gravement malade.
Il y a un problème.
Quoi.
Ah oui.
Mais de toute façon, ça faisait 6-7 ans, ça a été un peu l'arbre qui cachait la forêt.
Et là, c'est bien ce qui s'est passé. Ils ont fait un super recrutement au mercato d'hiver. Hein.
Et là, il va falloir passer...
Notamment avec Debuchy, qui a fait un grand formidable match. Il a marqué un but il a l'origine du deuxième.
Entep, premier match, voilà, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et on avait les moyens de faire des recrutements comme ça beaucoup plus tôt, sans prendre des grosses vedettes, mais voilà... Sunderland, tout le restant, enfin voilà, un moment.
Et en termes de direction, tu vois ça comment? Parce que Romeillet.
Il s'en va à la fin d'année. Ben là, normalement, il y a un producteur qui doit arriver.
Oui, il y a quelqu'un qui gère le club, là, actuellement.
Oui, oui, tout à fait. Ben,
c'est l'intérim.
Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de capitaux, on n'arrivera pas à recruter les grandes vedettes.
Il y a l'ancien directeur.
Compost?
Je crois que c'est le directeur général qui doit gérer le club.
Voilà, mais c'est l'ancienne ville. Mais voilà, c'est qu'à un moment, il faut évoluer, puis dire basta.
Pourquoi les bons joueurs actuellement sont dirigés vers le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a des capitaux, il y a pas mal d'argent et c'est pour ça que...
Et puis les Verts, il y a encore...
Il y a un attrait quelque part au PSG.
Tous les publics qu'on en discutait tout à l'heure, toutes les sections de supporters, nous joueurs, rien qu'à Rambouillet, on est plus de 180 là. Enfin voilà, il y a des sections de partout, il y a le peuple qui est là, on les suit partout, donc l'engouement il est là. Mais à un moment, il faut se donner, alors on ne pourra jamais rivaliser avec Paris pour l'instant.
Saint-Etienne, c'est un club emblématique des années 70.
On doit regarder Saint-Etienne comme on regarde Lyon à l'heure actuelle. En Coupe d'Europe.
Je suis d'accord, c'est pour ça que tu parles de Paris, mais je pense que c'est vraiment pas la même cour aujourd'hui en France.
Pour l'instant.
Il y a un club et les autres.
Voilà. Il y a Paris et les autres. Mais enfin, bon, apparemment, quand on voit les championnats étrangers, c'est un peu le cas partout, sauf en Italie. Hein. Naples, c'est assez serré, mais Manchester City domine très largement, Barcelone domine largement, le Bayern aussi.
Si tu prends le classement, par exemple, en Angleterre, je suis d'accord avec toi. Après, quand tu regardes que City va jouer United, va jouer Chelsea, va jouer Liverpool, va jouer Tottenham, t'as toujours un risque de voir City tomber. Hier, ils n'ont pas gagné à Burnley, par exemple, et c'est un championnat qui est beaucoup plus serré et incomparable avec le championnat de France.
Oui, non, Paris, excuse-moi, mais Paris, chaque fois qu'ils ont joué un gros, ils ont été embêtés cette année.
Oui, oui c'est
ils
vrai.
Ont, ils sont tombés, ils sont tombés à Lyon. Justement. À Marseille, ils sont à deux doigts de sortir, et puis on attendra de voir sur les matchs retour. Mais dès qu'il y a opposition et dès qu'il y a pression sur la défense, c'est un peu compliqué. Donc
qu'est-ce qu'on appelle des gros?
Des gros.
Non, parce que là, vous citez que des noms d'équipes anglaises qui ont gagné un jour ou l'autre une Coupe d'Europe. Si.
Il a cité Lyon, il a cité Marseille.
Oui, voilà, mais, je veux dire que,
ceux qui jouent les têtes d'affiche, qui jouent les premiers rôles en championnat.
Voilà, mais qui sont pas forcément des gros sur le terrain. Enfin, voilà. Après, faut que pareil, je sais plus qui est-ce qui disait cette semaine.
Ceux qui jouent les premiers rôles en championnat.
Qui disait que le championnat français était l'un des plus durs, des plus rugueux, des plus physiques à l'heure actuelle en Europe. Peut-être pas le plus beau. Mais l'un des plus durs. Donc à l'heure actuelle, c'est plus des têtes d'affiche. C'est peut-être le problème qu'on a eu en France, c'est que à part Saint-Étienne ou Marseille, Nantes, voilà, ou Paris maintenant, il n'y a jamais eu des équipes qui ont fait des grandes épopées européennes, mais pendant des dizaines d'années, quoi.
Donc, ce que j'appelais gros, excuse-moi de te couper, c'est aujourd'hui on voit qu'il y a Paris. Il y a 10 points derrière, il y a 3 autres équipes, puis après il y a un autre championnat.
Oui, oui,
c'est ça, alors que les autres années, de la 2e à la 9e place, des fois il y a 5-6 points. Là,
c'est le cas. Hein. Là, c'est le cas entre la 9e et la 17e.
Il y a vraiment trois équipes qui vont se battre pour l'Europe.
Ça ne veut pas dire que les trois derrière, que Lyon, Marseille et tout, sont plus mauvais que le deuxième anglais ou le deuxième espagnol.
Au niveau comptable.
En Espagne, vous avez Barcelone qui est aussi en tête. Et puis les autres sont derrière. Mais
c'est pas pour ça. C'est pareil. Manchester City, le Bayern, depuis des années en Allemagne.
Les petits qui sont derrière, ce qu'on appelle les petits. Parce que moi, à partir du moment où il y a 20 clubs dans un championnat, les 20, pour moi, sont au même niveau.
La question, c'était juste de savoir... chaque équipe était première, mais à chaque fois qu'il y avait qui tombait contre un deuxième ou un troisième, il y avait match quoi.
Bon, je voudrais qu'on parle de Bordeaux aussi, hein, un parcours un peu similaire. Donc à Saint-Étienne, ça va aussi un peu mieux pour Bordeaux.
Le cas Bordeaux, ça va parler du niveau hyper serré dans le classement au championnat. Bordeaux était 17e, ils ont gagné un match, ils sont 9e. Aujourd'hui, on a
Fait un début catastrophique, et 6e maintenant.
Et 6e. On a Bordeaux qui peut remonter. Très sincèrement, c'est comme Saint-Étienne, ça. A l'air d'aller mieux, ils ont un nouvel entraîneur qui va inculquer notre philosophie et Bordeaux peut très bien être européen en fin de saison. Donc, donc malheureusement, ça va cacher les misères du club, mais voilà.
Voilà, effectivement, il y a Paris Saint-Germain, il y a 2-3 équipes qui se battent en plus pour le passe d'honneur.
Il y a eu l'effet nouvel entraîneur
et même Metz qui remonte.
Hein, je pense que la différence, ça n'enlève pas leur jeu et tout ça et leur classe. Hein. Mais je pense que s'il y a un aussi gros fossé entre Paris et les seconds, c'est que les gens, quand ils les affrontent, ils sont un peu résignés. Hein. Mmh. Voilà, les mecs, ils savent déjà en début de championnat, ils disent bon, on aura déjà 6 points moins contre Paris.
Malheureusement, au contraire de Lyon qui a joué.
Preuve que non, puisqu'ils ont, ils ont été battus à Strasbourg. Oui, donc, si t'es motivé.
Strasbourg était dans une spirale, ils ont gagné leurs 4 matchs de l'année.
Maintenant, au niveau du jeu, quand ils élèvent un peu le niveau de jeu, ils sont au-dessus. Bon, il n'y a pas de secret. Il y a quand même des sacrés joueurs, des vedettes.
Et puis Paris perdra toujours 1-2.
Ils sont obligés de perdre des matchs, bien sûr. Tu peux pas faire.
Ils seront pas infaillibles.
Tous les champions perdent le match retour contre Saint-Étienne, Paris.
Mais oui.
Mais est-ce qu'on n'est pas en droit de demander des records avec une équipe comme ça? Parce
que même le Barça perdra encore des matchs contre des petits et ça arrivera.
Paris, au fond du fond, on n'a absolument rien à faire de perdre à Strasbourg, de perdre je ne sais où. Tout ce qui compte, de toute façon, pour Paris, c'est pas le championnat, c'est la Ligue des Champions. Si le 14 février, Paris ne perd pas Bernabeu, mais va prendre 3-0 le week-end précédent à Toulouse, au final, le bilan sera positif.
C'est trop facile de dire ça.
Bah écoute, quand
tu peux pas te préparer à un match exceptionnel à Bernabéu en perdant des matchs et en jouant mollement.
Mais ça arrive championnat pourtant, Pierre.
Moi j'y crois pas. On va en parler, mais prendre les matchs par-dessus la jambe, c'est, enfin moi c'est mon avis, mais je pense pas que ça soit la meilleure chose en fait.
On préserve certains joueurs justement pour ces rendez-vous-là.
C'est ce qui va se passer avec le Real.
On va en parler.
Regarde, ils ont fait encore match nul, ça va pas les empêcher de sortir Paris.
Attention, le Real c'est pas Paris. Attention, le Real c'est pas Paris.
On va en parler. C'est du 50-50. On va en parler.
Je pense sincèrement que cette année on peut se permettre de comparer le Real au PSG.
Ouais, mais les dernières on comparait Barcelone et Paris. N'oubliez pas. Et là aujourd'hui, le Real, ils ont plus que ça à jouer. C'est leurs deux matchs. S'ils sont éliminés contre Paris, il n'y a plus rien derrière.
Il n'y a plus rien à jouer.
Alors, mais on peut pas comparer.
Tu me diras à peu près pour Paris aussi. En soi, aujourd'hui, Paris n'a plus aucune.
Si, parce qu'au final, il y aura les finales de coupe à jouer. Le Real ne peut plus même pas être champion, c'est terminé.
Ouais, c'est parce qu'il les intéresse, tu mets 400 millions d'euros sur la table et tout.
Oui, mais c'est juste un devoir d'être champion, c'est un devoir. Ouais.
Alors, on va en discuter. Avant d'envoyer la pub et la musique, juste un petit mot sur une épreuve qu'il y a bien, Arnaud, c'est la Coupe de la Ligue. Paris Saint-Germain-Monaco, c'est la finale. Bon, PSG qui s'est imposé 3-2 à Rennes, mais c'est eux qui avaient gagné aussi à Amiens 0-2. C'est un remake de la finale de l'an passé.
Oui. Hein. Oui, l'année dernière, Paris a gagné les deux finales contre Monaco.
Et grâce à Paris et Monaco, le Matmut Atlantique de Bordeaux va enfin voir un match de football.
Oui, et puis il y aura un cinquième qui va être européen. Quoi qu'il arrive,
la Coupe de la Ligue, à Bordeaux.
Pas quoi qu'il arrive, mais...
Parce que Paris va être champion.
Bah, si Paris est champion, oui, fatalement, on voit difficilement. Et Paris, allez, mettons qu'ils ne sont pas champions, ils terminent deuxième du championnat. C'est prioritaire, la Ligue des Champions. Donc, de toute façon, il y aura quoi qu'il arrive, il y aura une cinquième place qui sera décisive pour l'Europe.
Saint-Etienne.
Ouais. La Coupe de France, messieurs.
Il faudrait vraiment un gros tremblement de terre pour que Paris ne soit pas champion.
Oui, la Coupe de France, donc on a vu tous nos clubs régionaux éliminés, Benjamin.
Malheureusement, il n'y a plus de club francilien là.
Que ce soit Chartres, que ce soit Houille, que ce soit Fleury. Voilà,
grosse déception pour Fleury au tour d'avant qui se fait éliminer contre une Nationale 3. J'étais au match, enfin un non-match. Et plus de club francilien présent.
Alors je voulais quand même dire que il n'y a pas eu trop d'hierarchie bousculée en 32e. Ça l'a été un peu plus en 16e. Francis à la télé nous ont montré Marseille-Valenciennes.
Ouais, bon, ça a été difficile pour Marseille. Hein. Ouais, ça a été difficile pour Marseille, mais bon. Valenciennes était bien en place, bien organisé. Avec un peu de réussite, ça pouvait jouer.
Organisé, ça leur a coupé les pattes parce qu'après, ils n'ont rien fait. Mais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas été honteux des Valenciennes quand j'ai vu le match.
Je me dois de vous dire que si vous aviez Eurosport, vous auriez vu tous les matchs.
Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas tout voir.
Même si on en prend le maximum. Une petite polémique avec Paris, mais bon.
Oui, c'est vrai que c'est toujours des matchs pièges, hein, ces matchs de reprise de Coupe de France.
C'était le match piège par excellence. Ouais. Hein, ouais. Il faisait peur
c'est classique.
Par rapport au match qu'on voit d'aujourd'hui de Marseille, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en route.
Il n'y avait pas une différence.
Et si Valenciennes l'aurait remporté, ils n'auraient pas volé le match.
Non, pas du tout. Non, c'est un beau match.
Et Lyon, c'était pas l'équipe. Rudy Garcia avait fait largement tourner.
Ouais. Mmh.
Très bien. Allez, la pub. Ensuite, on va parler des Coupes d'Europe. On va rentrer. Et puis de la création de la Ligue des Nations. On y va.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. Et ne crois pas surtout que nous autres, on s'en fout. Tu sais. Ça sert à rien. Laisse un peu dormir à peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Pleurer pour qui, pourquoi? Pour quelques souvenirs. Quelques mots d'amour jetés dans une cour et qui s'en vont mourir. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que tes larmes on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Demain ce sera toi qui saura nous parler. Quand tu viendras nous voir, tu pourras nous faire croire que tout peut s'oublier. Mais pour l'instant, tais-toi, pour parler on est là. Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert. Ta peine dans un coin.
Bon Bibi, on voulait avoir une petite pensée ce matin quand même.
Oui, donc une petite pensée pour notre ami Lucky du restaurant L'Ermitage à Senlis. Grand rendez-vous de
des motards. C'est le QG des Verts de Saint-Etienne de la région.
Voilà, qui a son restaurant a été détruit il y a une quinzaine de jours par un glissement de terrain, donc il est fermé. Et il y a eu toute une chaîne de solidarité lancée par les motards d'Île-de-France et continuée avec les Stéphanois. Donc sur l'Inchi, il y a une petite cagnotte qui est organisée pour ceux qui veulent participer. Voilà, on fait un petit don, 10 euros, 20 euros. Hein, voilà, une petite pensée pour notre ami Lucky.
Bon, je voulais simplement aussi revenir sur la Coupe de France. Je vous donnais quelques matchs. Il n'y aura pas de gros choc hein, cette semaine pour les huitièmes de finale, mais enfin quand même. Sochaux, Paris Saint-Germain, Metz, Caen, Montpellier, Lyon et Chambly, Granville. Tiens, ça sera le match probablement du futur Cendrillon. Lyon qui va gagner à Monaco, 3-2. Victoire de la Constance, hein. Francis.
Oui, pas de soucis, ça s'est bien passé. Victoire logique.
Oui, victoire logique. Hein. Malheureusement, les Monégasques ont réagi un peu tard et ont joué plus par bribes. Edouard me parlait de la nouvelle qui est tombée hier, Lille, donc oui. Qui pour l'instant est à Ligue 2, en Ligue 2 à titre conservatoire. Hein.
Oui, à titre conservatoire.
Ouais. Bon, donc c'est ce qui prouve que ça va mal chez les Ch'tis actuellement. Hein.
Ça va mal, ça a déjà mal commencé avec l'arrivée de Bielsa, parce qu'il s'est mal terminé.
Ça fait une monumentale erreur. Bon,
ça, c'est la rétrogradation à titre conservatoire.
Avec Charles Guétry qui est dans le club, faut pas l'oublier. Hein.
En Ligue 2, l'histoire qu'il y a eu avec les Valenciennes aussi, cette semaine où ils ont prêté Motiba au début de saison jusqu'à la fin de l'année et en cours de saison, on dit on le récupère. Alors bon, on se demande dans quoi, quelle est la consistance des contrats de prêt parce que
pouvoir récupérer Bastien en National 3.
Ouais, non mais pouvoir récupérer un gars qu'on a prêté en début de saison, je trouve ça lamentable. Les contrats sont mal faits, c'est pas possible.
Enfin, ceci dit,
ils ont tout de même touché, Valenciennes a tout de même demandé un million de dommages pour le retour de Motiba à Lille.
Je voudrais remercier Margarita Louis-Dreyfus en fait, en tant que supporter de Marseille. Parce qu'elle a bien vendu le club à la bonne personne. Parce qu'on est bien content de ne pas avoir Gérard Lopez à Marseille.
Oui.
Faut le dire ça, parce qu'on lui a craché dessus longtemps à cette femme. Et là, le club il est bien tenu, on a un bon président, l'actionnaire fait pas n'importe quoi. Et quand on voit à Lille ce qui se passe, je pense qu'on peut.
C'est ce qui fait peur. Madame Aubry ne veut plus mettre apparemment.
On est Madame Aubry ne veut plus mettre d'argent. Vous êtes un petit peu inquiété par le fair play financier aussi depuis cette semaine.
Renseigne-toi vraiment.
Et Paris aussi est inquiété par le fair play financier.
Paris, le reporter le connaît, je te rassure.
Non, mais quand même, il y a beaucoup de clubs qui sont inquiétés. En fin de saison, ils arrivent à régler les comptes, il n'y aura pas de soucis. Hein. Si Marseille n'a pas recruté au mercato hivernal, c'est qu'il y a une raison.
C'est ce qui fait peur un peu à Saint-Étienne, la reprise. On ne sait pas. Non, mais on se demande qui va reprendre. C'est vrai que ça fait toujours.
Je voulais aussi simplement, avant d'aborder les Coupes d'Europe, parler d'assistance vidéo dans la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a évité quelques erreurs d'arbitrage, notamment dans le match qu'on a vu donc mercredi. Hein.
Ouais, moi je trouve ça bien parce que des fois il y a quand même. Enfin, je suis pour. Pas dans tous les cas.
Certains l'ont tellement demandé la vidéo que maintenant.
C'est vrai que ça peut. Des fois, sur des matchs cruciaux, ça peut aider.
Mm-hmm. Oui, but refusé, but marqué, but non valide, but valide. Bon, c'est bien. Et je sais qu'à l'époque Platini était contre la vidéo, mais bon, si vous voyez, ça n'influence pas trop sur le jeu. Hein, y a des petits moments d'arrêt, mais bon.
Ça reste à l'interprétation de l'arbitre. Voilà, hein. Voilà c'est sur des faits quand même bien concrets.
Pour l'instant, c'est à l'essai, c'est pas encore répondu, donc c'est normal que ça. Au début, ça.
Puis les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du foot.
Mais je veux dire, c'est pas répondu. Généralement,
c'est ce que disait mais Jacques.
S'il n'y avait plus d'un. Ah, merci. S'il n'y avait plus. Non, mais c'est vrai. Mais bon. S'il n'y avait plus d'erreur d'arbitrage, il n'y aurait peut-être plus d'émissions, on ne pourrait plus débattre, on pourrait bien faire le monde.
On est des humains.
Juliette changerait de discours. On aurait d'autres émissions sans Juliette.
Bah oui. Hein. Là, on s'apercevrait que. Bon.
Bon. Mais bon, c'est normal qu'on suive la technique, c'est normal.
Et l'échec de la goal line.
Ouais. Pour revenir sur la vidéo, c'est une bonne chose. Faut vivre avec son temps. Faut pas oublier, par contre, que la vidéo qui est mise dans les autres sports, c'est des temps qui sont arrêtés, contrairement au foot. Au rugby, on arrête le temps. Et là, faudrait pas que ça mette trop de temps parce que ça peut vite le temps effectif, il peut vite être diminué et ça peut faire peur.
Alors, la goal line, l'échec de Alors c'est parce qu'on a choisi le mauvais fournisseur.
Bon, on verra, on pourra peut-être un fournisseur, je n'ai pas trop d'avis là-dessus.
Il y a
peut-être des améliorations à faire, après c'est au niveau technique, après ça n'a rien à voir avec le football.
Très bien, allez, on en vient au chapitre Coupe d'Europe. Alors justement, certains disaient que Paris ne répondait jamais présent au grand match. Le dernier match de Coupe d'Europe, Paris l'a perdu 3-1 contre le Bayern de Munich. Alors, est-ce que Paris avait laissé filer le match? Est-ce qu'on a le droit, Arnaud, de laisser filer un match quand on va jouer le Bayern de Munich?
Paris n'a pas laissé filer le match. Paris a joué tranquillement. Voilà. Et puis
Est-ce qu'on a le droit?
Laisser filer le match, c'est simplement laisser passer les joueurs et puis aller
la notoriété du PSG, on sait que le Bayern allait essayer de faire un match bien meilleur qu'au match aller.
Ils l'ont fait, donc c'est un vrai match de Coupe d'Europe. Dans la mesure où ils étaient déjà premiers,
est-ce qu'on a le droit de laisser filer un match contre le Bayern?
Mais ça s'appelle pas filer un match. On n'a pas laissé filer un match.
Ah bah Paris a été absent dans le jeu.
Mais c'est vous qui pensez comme ça.
Ce jour-là, Paris a été absent dans le jeu. Voilà. Après, il y a des raisons.
Mais oui. Il fallait qu'il soit bien.
Paris a laissé Bayern de Munich gagner.
Non, on veut dire que Paris n'a pas répondu présent ce jour-là sur le terrain.
Mais si, pourquoi?
Paris a perdu. Paris a été largement.
On comprend le foot maintenant. Il est comment maintenant?
Mais Paris n'a pas laissé filer le match. Paris a été battu par meilleur que.
Oui, mais Paris n'a pas été.
Le Bayern a été battu à Paris.
Donc ils ont gagné.
Non, mais ça vous
laisse montrer. Je mettais dans l'idée que Paris a laissé filer le match.
Paris a joué.
On a juste vu que Paris était.
Mais le foot est comment?
Non, mais Paris n'a pas répondu présent au match.
Contexte,
Pierre, s'il te plaît.
Le contexte, c'est que au match aller, le Bayern était en crise.
Absolument.
Carlo Ancelotti s'est fait virer après le match. Là, le Bayern est revenu avec un club plus structuré, avec un nouvel entraîneur. Ils ont fait des changements.
Je te rappelle qu'on est ultra dominé, on prend 3-0. On l'a 3-0.
C'est ce que j'avais dit. Et là, je suis désolé, les Paris, ils n'ont pas laissé filer le match. Paris, ils n'ont pas. Objectivement, Paris a été là.
C'est-à-dire que Paris n'a pas répondu à l'événement.
Quand ils reviennent à un partout, ils veulent aller chercher le match.
Ils ne reviennent jamais à un partout.
Quand ils reviennent à 2-1, alors.
Ils reviennent à 2-1
et ils veulent revenir.
C'est juste qu'à la différence du match aller, c'est qu'ils ne sont pas réalistes du tout. Ils ont été ultra réalistes en première.
Il n'y a pas eu de jeu.
Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, Paris avait le ballon. Paris avait la maîtrise.
Techniquement, il fallait prendre 4-0 à Munich pour finir deuxième du groupe. Les mecs n'avaient aucune motivation, ça c'est une faute de leur part, mais il n'y avait aucune motivation.
Alors, moi je suis pas d'accord. Sur un match de Ligue des Champions contre le Bayern, t'es regardé par tout le monde, tu peux pas n'avoir zéro motivation.
Ouais, je suis sur ces matchs-là. Et
justement, d'où ma question.
Justement, ça a donné des idées à nos adversaires.
D'où ma question. Est-ce qu'il est logique que Paris ait laissé, entre guillemets, filer un match quand on va jouer le Bayern de Munich au match retour, qu'on sait qu'on a une notoriété dans un club, et on sait que le Bayern va fatalement réagir après l'humiliation du match aller. On le sait.
Le Bayern a laissé Paris gagner au match aller.
Non, c'est pas ce qu'on veut dire.
C'est le premier match de la poule, alors qu'à la fin, il y a déjà 3 points d'avance.
On ne veut pas dire qu'ils ont laissé gagner. Paris n'a pas répondu présent à l'événement. Voilà. C'est de l'inconscient.
C'est de l'inconscient, puis il y avait le public qui poussait aussi derrière. Ils jouent à domicile.
Peut-être.
Moi, je veux rappeler, on a encore vu les limites du capitaine de Paris, qui techniquement et footballistiquement est très fort, mentalement est très faible. Et il a été friable à Barcelone, il a été friable en demi-finale de Coupe du Monde, il a été friable à Munich. Mais peut-être se poser la question de savoir si Kimpembe, ça pourrait pas la
son nom, c'est Oshialo.
J'en ai un autre si tu veux, mais je dois te dire
parce que les joueurs ne pleurent pas. T'as jamais vu le rugby, les joueurs pleurer? Pourquoi vous l'appelez
Oshialo? C'est son surnom.
Ça reste un très bon footballeur, mais mentalement, il a des lacunes.
Il a des lacunes, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas à le traiter comme ça non plus.
C'est pas du sérieux ce que vous dites.
Donc c'est
le gars, il a pleuré parce que ça l'a touché.
Il a pleuré parce que l'Allemagne était dopée ce jour-là. Ils ont gagné 3 matchs pour 5 ans.
Mais ça n'a rien à voir.
C'est pour ça qu'ils ont gagné 7-1 au Brésil. Et quelque part, vous n'avez pas été conscient de cela.
Bah alors, c'est du 50-50 PSG Real?
Non.
Ils ont un avantage à jouer à l'extérieur.
Je veux pas, je suis pas là pour taquiner, je dis ce que je pense en tant que personne neutre. Hein. Je pense que Paris vont avoir une mauvaise surprise au Real. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure.
Voilà. Après, il y a cette culture, ça n'enlève pas, mais
pour l'instant, dans tous les matchs importants, c'est vrai que
quand on regarde là en ce moment, c'est bah oui. Quand on voit l'état du Real, quand on voit ceci, c'est un peu le mal français.
Tu sais que quand tu regardes sur le papier,
tu regardes sur le papier, tout le monde tombe là-dedans.
Mais sur le papier, on fait tellement de trucs sur le papier. Sur le papier, on devait battre les Portugais en finale du championnat d'Europe. Sur le papier, on fait plein de choses. Voilà. Bon,
en fait, sur le niveau de jeu aujourd'hui, le Paris est largement devant. Mmh. Clairement aujourd'hui, voilà. Si Paris joue son jeu je vais prendre une expression un peu deuxième degré, s'il claque pas des fesses en défense, ça devrait passer. Après, il reste du monde derrière, ça reste qu'un huitième de finale. Mais le souci, c'est que voilà, comme je dis, Madrid, ce sera leurs deux matchs, leurs deux finales.
C'est gérer
l'événement.
Voilà.
Des mecs comme Ramos, des mecs comme Ronaldo, des mecs comme Kroos, ils se mettront au niveau sur ce genre de match.
Voilà. Mais moi, je pense quand même que ça sera du 50-50. Le niveau de jeu du Real actuellement est moins bon que l'année dernière. Oui, c'est vrai. Mais il est peut-être moins bon que l'année dernière. Mais Paris, dans les grands.
Attention,
dans
c'est la gestion de l'événement qui va être
important. Il sait aussi se transcender, il ne faut pas non plus descendre le Paris Saint-Germain plus bas terre.
Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est français.
Non, c'est
français. C'est pas ça. Quand non. Paris joue, eh ben, tout le monde s'acharne sur Paris de façon à ce que Paris perde. Et si Paris perd, tout le monde sera content. Quand vous avez vu les deux minables qui ont sauté de joie quand Barcelone avait gagné Paris, non. Je dis, ce ne sont pas des Français. Ce n'est pas l'histoire d'autre chose. Ce ne sont pas des Français. Une équipe française joue, moi je défends l'équipe française. Oui, Marseille joue, je défends Attention, Marseille. Oui, juste... Lyon joue, mais je défends Marseille. Que, mais les gens ne sont pas français dans l'âme. Voilà. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de journalistes
chose,
qui ne sont pas
Paris,
non plus français.
Dans les grands rendez-vous, est capable d'élever son niveau de jeu. Après, ça va être sur un petit détail.
Gérer l'événement
comme différence.
Notre ami a tout résumé. Il a dit dans un match comme ça, Ronaldo,
c'est de l'inconscient.
Voilà, c'est tout.
Oui,
c'est
Ramos,
les
bibis.
Voilà.
Oui,
mais que ces joueurs-là,
et Neymar, c'est aussi avant.
De l'autre côté, il y aura du
mais j'ai juste pas critiqué Paris. J'ai juste relevé le fait que Paris, niveau footballistique, était au-dessus.
Mais c'est pas Paris qu'il faut critiquer. Mais je suis pas en train de critiquer. Il faut défendre la France quand Paris joue. Non, mais c'est ce que je vous demande.
Non, mais moi, je vous demande de m'écouter. J'ai juste dit qu'en fait, Paris, au niveau du football, est au-dessus. Mais sur un match comme ça, c'est 50-50, je suis complètement d'accord.
Objectivement, c'est vrai qu'en France, par rapport à l'Espagne, que ce soit As ou Marca, ils sont tous déjà derrière le Real Madrid. En France, l'équipe, pour pas citer, ils sont pas derrière le Paris.
Non, mais ça c'est vrai.
C'est un souci.
C'est la bande à
pitié. C'est Marseille qui dit ça.
Tout le monde a été du temps de tapis. C'est vrai que tout le monde était derrière Marseille comme c'était derrière Saint-Étienne. Mais enfin, l'époque a changé.
Mais après, oui, il y a peut-être un engouement.
Ça c'est vrai.
La culture footballistique. Bon. Il y a plus de cette culture.
Justement, on va parler un petit peu de football. Si on regarde au poste par poste, il y a deux attaques de feu contre deux défenses très faibles. Il y a un Bale contre Kurzawa qui peut faire mal. Il y a un Ronaldo contre Alves à moitié cramé qui peut faire mal. Il y a Mbappé contre Marcelo aussi cramé qui va faire très mal. Et de l'autre côté,
qui vous dit qu'il sera cramé ce jour-là?
Arnaud,
on est d'accord.
Marcelo, depuis le début de l'année, c'est plus le même Marcelo que l'année dernière. On regarde juste ses matchs.
Arnaud, c'est beau de dire ça, mais d'être dans les calculs, mais un match, ça reste un match. Je veux dire, ils peuvent se transcender ce jour-là.
C'est la gestion de
l'événement. Chanel Alves ou Marcelo, c'est des grands joueurs.
Rien qu'hier soir, t'as regardé le match du Real?
Non, je ne l'ai pas regardé, mais je connais qui.
C'est à Levante, ils ont une défense qui va à deux à l'heure. Je te jure, j'ai halluciné.
Mais alors, attends.
Je voyais les attaquants de Levante partir derrière Varane, derrière Marcelo, derrière Ramos.
Tu te contredis parce que tout à l'heure, tu disais que Paris, contre le Bayern, ils étaient déjà qualifiés, donc ils n'ont pas joué le match. Moi, je te dis que le Real, ils sont déjà à 15 points de Barcelone, donc ils jouent pas le match en championnat.
Mais le 14
février, c'est pareil.
Les équipes vont être à 200%. Mmh. Hein.
Oui, et c'est pour ça que je te dis des grands joueurs comme Marcelo, Sergio Ramos, Modric, Ronaldo, Bale, ils vont sortir les.
Sauf que quand le physique n'est plus, malheureusement, ça, tu peux plus suivre.
Bon, alors
et
Pierre.
Ça, et ça parle aussi pour la défense du PSG, parce que les latéraux, par exemple, sont très faibles.
Non, vous avez. Faut peut-être penser à mettre Thomas Meunier un jour.
Ouais. Je peux pas savoir qui va se qualifier. Ouais. Ce serait trop facile de.
Là,
je pense que.
Donc, c'est bien du 50-50.
Je pense que là, le fait de jouer le premier match à l'extérieur pour Paris peut faire une différence.
Oui.
Je pense que c'est ça surtout.
Le retour à la maison va changer beaucoup de choses.
Je pense que Paris va se qualifier, mais en toute objectivité, de rencontrer un gros cito, ça va leur jouer des tours et ils tomberont avant la finale.
On verra.
Je pense que ça peut faire un bon nul. Le principal, c'est de ne pas prendre de but.
Oui, mais il y aura un qualifié à l'arrivée.
Je pense que le Paris a ses chances. Il ne faut pas que, effectivement, la presse s'acharne sur le Paris Saint-Germain. Je rejoins un peu Juliette.
Tout ce qui va compter, de toute façon, pour Paris.
L'année dernière, ils nous ont tellement gonflé avec leur remontada que quelque part dans la tête des Parisiens, il y avait un petit.
Quand on dit que c'est l'inconscient qui gère l'événement.
C'est sûr.
Et n'oubliez pas que Barcelone a perdu le match d'après. Ils avaient gagné Paris, la remontada, mais là, ils ont perdu.
N'oubliez pas non plus qu'il y a un historique Paris Saint-Germain, Real, Camboiré, 4-3 au Parc. N'oubliez pas ça.
4-1 match aller, 4-1 match
retour. Ça, c'est une réflexion franco-française.
Bon, on parlait de Monaco éliminé 5-2 à Porto, dernier de la poule. Ils ont fait de la figuration comme Lille, comme Montpellier, comme Marseille.
Oui, en Ligue des Champions cette année, oui. Mais bon, vu tous les joueurs qu'ils ont perdus, Mendy et des joueurs clés comme Bernardo Silva, qui était un super milieu de terrain, c'était un ratisseur. Et ben voilà, tout ça, mais c'est normal.
C'est quand même dommage parce que les mecs, ils savent qu'ils vont perdre des joueurs en fin d'année parce qu'il y a des choses inévitable. Enfin, c'est tracé, tout le monde le sait, même nous. Les gars, ils peuvent pas se préparer. Que font les cellules de recrutement françaises?
Oui, c'est Monaco, c'est le projet de Monaco, en fait.
Oui,
tous les 3-4 ans, ils reconstruisent, ils repartent de zéro.
Mais oui, alors pourquoi ils
ne peuvent pas faire du fric.
Monaco fait de l'élevage. Alors, vous ne pouvez pas. Il faut les laisser tranquilles. Ils font comme ça. Ils achètent des joueurs à 10 euros, ils les revendent 50 euros. Et puis après, ils font.
Oui, mais ceci dit, c'est quand même les seuls qui, sur les dernières années, rivalisent avec le PSG.
C'est pas la fin.
Oui, mais bon.
C'est les seuls qui rivalisent avec le PSG.
Tous les ans, vous perdez les dernières années. Joueurs clés, vous pouvez pas jouer le haut du tableau. Là, c'est un coup de chance.
C'est le business, on fait de l'argent. Voilà, c'est peut-être le seul club qui doit gagner de l'argent.
Voilà. France. Alors, pour revenir en huitième de finale de Ligue des Champions, il y aura un autre gros choc. Ce sera Chelsea-Barcelone. Faut pas oublier. Hein, autre. Et puis, je vais vous donner les autres affiches. Il y aura Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Bayern-Besiktas. Donc, Séville-Manchester United et Donetsk contre l'AS Rome. Voilà. Tiens, l'Europa League, justement, on en parlait. Nos trois équipes, se sont toutes trois qualifiées, mais en terminant deuxième de leur poule, hein, puisque les Marseillais avaient fait 0-0 contre Salzbourg. Marseille qui va jouer donc Braga. Les Portugais. Braga. Bon.
Je pense que.
C'est piégeux.
Marseille est supérieur à Braga.
Oui, en ce moment même.
Au niveau du jeu,
mais Marseille est supérieur. Braga, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europa League.
Oui, mais pas cette année.
Moi, je me méfie. Je me méfie. Il faut faire attention.
Je pense que Marseille peut passer ce tour face
mais
à Braga.
Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est à fond dans le championnat. On est objectif deuxième place. Mm-hmm. Donc va falloir essayer de faire un bon match ce jour-là. Et moi, je sais pas. Je sens ce match. Je le sens pas.
Ah.
Braga, ils n'ont pas joué hier.
Ils ont perdu 3 contre Porto.
Je pense que Braga, contre Braga, ça passera.
On est quand
16ème de finale. Hein.
On est quand
16ème.
Ouais, enfin,
malgré qu'il fasse tourner.
Souvent, les 16ème et les 8ème, c'était là que les clubs français tombent.
Ouais, mais moi, je pense que c'est plus Nice qui sera en danger en Russie.
Nice qui avait été battu.
Parce que j'ai vu là-bas, à cette période de l'année, ça va être plus compliqué pour
Nice qui avait été battu par Rennes 1-0, ce qui l'a pas empêché de terminer 2ème de sa poule, et qui va jouer justement le Lokomotiv Sofia. On va quand même rappeler que les 3 clubs français, Lokomotiv Moscou, donc les 3 clubs. Les trois clubs français joueront leur match aller à domicile, vu leur deuxième place dans leur poule. Donc Lokomotiv Moscou,
c'est compliqué parce que de jouer en Russie à cette période, c'est compliqué. En plus, Nice avait un élan de mieux là, ça repartait. Puis hier, ils ont rechuté à domicile et Nice c'est un peu en dents de scie cette année. Donc on peut pas savoir quel Nice on va avoir à ce match-là.
Voilà. Et Lyon qui avait été battu par Bergame pour son dernier match 1-0. Lyon aussi donc deuxième qui va jouer Villarreal. Messieurs.
Villarreal, c'est pareil, c'est une équipe comme Braga, ils connaissent bien l'Europa League, ils ont des bons joueurs, Carlos Bacca que nous voulions cet été à Marseille.
Villarreal est plus fort que Braga à mon goût.
Oui, bien sûr, mais Lyon, ils sont objectifs aussi, eux, finale, parce que la finale est au Parc Güell. Et du coup, moi, justement, ils vont vouloir la jouer à fond. Ouais.
Alors ça joue bien au ballon, Lyon, mais ça, c'est inconstant quand même. Hein.
On l'a vu quand ils perdent à Bordeaux,
quand
3
par exemple. Les équipes qui sont en Ligue Europa cette année, les voir en finale de Ligue Europa, ça sent compliqué.
Ouais, et puis en plus,
Arsenal, le Milan, le Borussia, l'Atlético.
L'année dernière, ils battent l'AS Roma.
Naples.
En fait, ils ont une chance quand même, c'est que Villarreal vient de perdre son meilleur attaquant, c'est Bakambu qui est parti en Chine. Donc du coup, je pense que...
C'était combien le prix déjà? 70, 80?
Ouais, voilà, bon, c'est les Chinois.
Bakambu, l'ancien de Sochaux, à 80 millions quand même.
Bon, c'était quand même une valeur sûre dans le club.
Vous voulez pas Saint-Etienne?
Non.
80 millions?
Non, c'est pas assez cher pour nous.
On peut espérer 3 qualifications quand même.
Allez, tout de suite, donc, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale. Allez, on y va. Après ce chapitre Coupe d'Europe.
Tu vois, c'est ce que tu viens de dire il y a 30 secondes.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris, entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses.
Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
RPE Super Troopa Beams are gonna blind me. But I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's sleep and sing, wishing every show was the last.
voulais simplement dire que naturellement cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, ainsi que toutes les émissions depuis le début de cette année 2018 et celle de 2017. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne avec Bruno aussi, Pascal qui fait cette émission. Zidane, il joue sa tête aussi sur le huitième de finale.
Bah exactement, il reste plus que ça à jouer pour eux, hein, donc
je suis pas d'accord.
Moi je pense que si, parce que là ils sont arrivés.
On est là pour en débattre, c'est
tout. Oui, il a tout gagné avec
on arrive en fin de cycle. Après il est protégé parce qu'il est aimé par Florentino Pérez. On le sait, c'est son homme.
N'importe quel entraîneur,
c'est son chouchou.
Mais attends, il a pas besoin d'être protégé. Il y a combien d'entraîneurs qui est arrivé pour sa première prise de fonction, qui a gagné deux Ligues de Champions.
Tout ce qu'il a pris, là.
Aujourd'hui, si on vire Zidane, on vire tout le monde.
Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est le Real Madrid.
C'est le Real, voilà.
C'est le Real Madrid. Et là, ils sont en train de produire un jeu assez médiocre.
Non, mais.
S'ils perdent en huitième de finale, ça va faire une saison blanche. Ça passe mal.
Ouais, mais c'est Zidane dans l'institution Real, maintenant il est au club.
Peut-être qu'ils vont lui laisser une chance.
Ça me paraît compliqué de virer Zidane et de se dire.
Mais bon, va falloir faire un gros recrutement. Il va pas falloir mettre un peu de sang neuf parce que
je vous arrête tout de suite. L'été dernier, c'est le PSG. Cet été, c'est le Real qui fait péter le marché des transferts.
Ronaldo, il joue sur une patte et demie. Ramos, il commence à prendre de la bouteille aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un bon recrutement à faire là?
Mais c'est ça, se penser sur Zidane, c'est les joueurs. Oui, comment ça, je pense. En fin de cycle.
Apparemment, ils auront un nouvel attaquant à la place de Benzema, ça serait Icardi de l'Inter Milan. Ouais. Ça parle d'Hazard avec grosse insistance au Real, parce que contrairement à ce que peuvent penser certains Marseillais, jamais le Real prendra Neymar cet été. Je dis bien cet été. Donc voilà, de toute façon, Real doit.
De toute façon, Neymar, il est bien là où il est.
Repenser toute l'équipe. Pour le moment, ouais. Après, il bougera sans doute au Real un jour, mais ça sera pas cet été, ça sera pas l'année prochaine, ça sera dans 2-3 ans. Pas maintenant.
C'est dans le foot, on peut jamais savoir à l'avance.
On verra. En tout cas, c'est la loi du terrain qui décidera. Et c'est pour ça qu'on aime le ballon.
Bon, allez. C'est un petit peu la loi de l'argent aussi, mais.
Oui, mais enfin bon, l'argent c'est aussi balayé en fonction des résultats aussi. Voilà. Allez, la Ligue des Nations, ça a été une épreuve qui va être créée, qui va remplacer les matchs amicaux. Vous êtes pour, vous êtes contre?
C'est la Coupe de la Ligue.
On est contre, je suis contre.
Moi je suis complètement contre, c'est histoire de gros.
C'est deux matchs comme ça.
Mais c'est les mêmes matchs. Ça met pas plus de matchs dans la saison, non? Ça remplace les matchs amicaux du mois de novembre et du mois de mars.
L'UEFA, ils ont besoin de se remplir les poches. Alors ils font les matchs pour pouvoir.
Non, ça remplace les matchs amicaux du mois de mars.
En fait, ça rajoute pas
des matchs amicaux, je suis contre.
Ça va surcharger encore.
Ça rajoute pas des matchs, mais ça fait juste de retard.
C'est le même nombre de matchs.
Je veux dire la fatigue.
Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matchs amicaux. Il n'y aura pas de matchs amicaux. Ils seront remplacés des matchs du mois de novembre, qui des fois, entre guillemets, sont des purs.
Et les premiers, sauf si je me trompe, si j'ai bien compris, le premier de chaque poule ne fera pas de phase qualificative.
Le premier de chaque poule se rencontre.
Non, mais il n'est pas qualifié directement pour
le vainqueur de la Ligue des Nations.
Si, le vainqueur, il est qualifié directement.
Directement. Voilà. Donc il y a quand même un enjeu qui fait pour une équipe, pour l'équipe vainqueur, d'éviter toutes les phases
mais ça n'alourdit pas le calendrier.
On dit que le vainqueur de la Ligue des Champions est directement qualifié.
De Ligue des Nations, il est qualifié pour l'Euro ou pour la Coupe du
il est qualifié directement pour l'Euro. Avec bonheur, parce qu'on va battre l'Allemagne.
C'est le vainqueur de la poule.
Le premier est qualifié directement.
Et les autres, en même temps, il joue les phases de qualification et par logique, il va se qualifier avec les phases de qualification. C'est là que complique le truc. Il me semble que c'est par exemple pour les vainqueurs de Division 3, Division 4. Les vainqueurs de Division 3, Division 4.
Le vainqueur de la division est
directement qualifié pour
Faudra qu'on regarde ça, mais enfin, moi, j'ai pas compris ça.
Oui, moi aussi. Donc,
le vainqueur est qualifié directement. Voilà.
Sauf qu'il sera déjà qualifié par la phase de qualification.
Non, mais pour cette fois-ci, la Ligue des Nations, elle commence en 2018. Elle commence en septembre 2018. Donc, ça sera pour un Euro 2020.
Moi, je trouve que le format est bon.
Pour moi, elle commence en septembre 2018.
Plutôt que de taper les petits clubs en match amicaux, au moins, on va.
Il y a un peu d'intérêt, quoi. Il y a un peu d'intérêt pour ces matchs amicaux.
Et puis, faire un France-Allemagne, c'est mieux qu'un
France-Allemagne. Avec les Pays-Bas puis l'Allemagne.
C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Je sais pas, je suis letton. Ça fait toujours plaisir de jouer l'Allemagne, l'Espagne, la France. Et aujourd'hui, on n'aura plus d'affrontements entre grosses et petites équipes en matchs amicaux.
De toute façon, quand on jouait des matchs amicaux, on avait toujours
c'est sûr qu'il va y en avoir.
Quand on regarde bien la France, ils n'allaient jamais chercher un Francis Ferroé en match amical.
Ça n'a jamais été le cas. La plupart. Ouais.
Souvent, non, enfin, bon, il y a eu des France-Grèce, il y a eu des France-Colombie, je suis pas sûr que.
Puis la différence avec les matchs amicaux, c'est que ça n'intéresse jamais personne, quoi.
Oui, je suis d'accord.
Au moins, là, il y a la compétition. Oui, non, mais enfin, en règle générale.
Il y aura un enjeu, mais les Pays-Bas, faut pas croire que c'est un cadeau aujourd'hui.
Non. Ils vont en rajouter 2-3 de plus.
Voilà. Allez. Bah écoutez, merci Juliette. Juste un petit mot.
Alors, juste un petit mot.
Un petit mot pour quelqu'un que j'écoute tous les jours sur AMC.
Oui, alors je dirais à M. Dugarry. Il a demandé à, au club, aux joueurs, de dégommer Neymar. Alors, je lui dis tout de suite que ce qu'il a laissé entendre, c'est que quelque part, les jeunes qui vont. Qui sont des autres clubs, s'ils font ça, ils risquent d'avoir des problèmes et être supprimés à vie. Mais il n'y aura pas que Neymar, il y aura Thauvin, il y aura Nabil Fekir, il y aura d'autres joueurs. Alors, quelque part, je porterai plainte contre lui.
Eh ben, c'est très bien. J'espère qu'il répondra. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Merci pour cette émission très animée. Merci à Jean-Pierre. Et rendez-vous la semaine prochaine pour Tribune Sport et dans un mois pour Tribune Foot. Bon dimanche à toutes et à tous. Salut.
Il faut que tu lui fasses tout.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité.